Laudetur Jesus Christus.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson, hospitalisé en soins intensifs hier soir à Londres, il souffre du Covid-19. C'est le ministre des Affaires étrangères qui prend la relève momentanément. Le gouvernement autrichien envisage un assouplissement des mesures de lutte contre l'épidémie après Pâques. La progression du virus y ayant été enrayée, les commerces devraient rouvrir progressivement. Le Japon, au contraire, déclare l'état d'urgence dans plusieurs départements de l'archipel. Les contaminations ont augmenté ces derniers jours, poussant le gouvernement à réagir avec force. 8 semaines que les catholiques hongkongais ne peuvent plus participer à la messe, une situation qui éprouve leur foi, comme nous le verrons avec un prêtre des missions étrangères de Paris. Les États-Unis durement frappés humainement et économiquement par le Covid-19. La crise économique pourrait y être particulièrement forte. Nous verrons ses conséquences éventuelles dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. La nouvelle est tombée dans la nuit ici à Rome, en Australie. La haute cour a annulé la condamnation du cardinal George Pell pour violence sexuelle sur mineurs au bénéfice du doute. Les juges ont estimé que les preuves n'ont pas établi la culpabilité selon le niveau de preuves requis. Le cardinal Pell a ainsi été immédiatement libéré et a rejoint un monastère à Melbourne. Dans une déclaration, il réitère qu'il a constamment soutenu son innocence et que l'injustice dont il a été victime a été réparée aujourd'hui. Le président de la conférence épiscopale australienne, Mgr McColeridge, reconnaît les sentiments mitigés que provoquera l'acquittement du cardinal. Plus de précisions sur notre site internet www.vaticannews.va. Je vous le disais en titre, au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a été transféré hier soir dans une unité de soins intensifs à l'hôpital St Thomas à Londres. Il avait été testé positif au Covid-19 le 23 mars. C'est le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui assure l'intérim pour diriger la lutte contre l'épidémie qui devrait atteindre son pic d'ici la fin de la semaine. À Londres, Jean Jaffray.
Les médecins de Boris Johnson, qui continuaient d'avoir de la fièvre et de tousser 10 jours après avoir testé positif au Covid-19, ont décidé une hospitalisation par précaution dimanche soir, juste après l'allocution de la reine Elisabeth aux Britanniques. Toute la journée de lundi, ministre et le service de communication au 10 Downing Street affirmaient que Boris Johnson, 55 ans, continuait de gérer la lutte contre l'épidémie quand, vers 19h, on apprenait qu'il avait été transféré dans une unité de soins intensifs. Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, 46 ans, le remplace pour présider le Conseil des ministres et mener à bien les décisions annoncées le week-end dernier pour mener une campagne massive de tests au Covid-19 afin de protéger en priorité les personnels médicaux, ainsi que pour accélérer les livraisons d'équipements de protection, masques, gants et blouses. Il reste que le gouvernement doit dès maintenant réfléchir à une sortie du confinement de la population d'ici la fin du mois et à des mesures pour relancer l'économie. Pas sûr que Dominic Raab ait suffisamment d'autorité. Les dirigeants du monde entier, dont le président Trump, qui considère Johnson comme un ami, et le président Macron, ont adressé des messages de sympathie et de soutien. Londres, Jean Jaffray pour Radio Vatican.
Preuve que la pandémie sera longue et la sortie difficile dans les pays les plus touchés. Le nombre de décès quotidiens a connu une nouvelle hausse hier en France et en Italie après plusieurs jours de baisse. Les autorités françaises ont annoncé 833 morts en tout, tandis qu'en Italie on dénombrait 636 morts. Seul point positif, le nombre de patients en réanimation progresse de moins en moins vite en France. Il diminue même en Italie. L'Italie où le gouvernement a par ailleurs décidé hier soir de débloquer 400 milliards d'euros de liquidités pour soutenir les entreprises face à l'épidémie. Si la situation peine à s'améliorer en Italie, ce n'est pas le cas en Autriche. Le gouvernement souhaite même assouplir progressivement les restrictions en vigueur à compter de la semaine prochaine. Les commerces vont ainsi progressivement rouvrir. À Vienne, les précisions d'Isorias.
Les déplacements resteront réduits au strict nécessaire jusqu'à la fin du mois d'avril, mais les activités vont progressivement reprendre dans le pays, selon un calendrier présenté ce lundi par le gouvernement. Les petits commerces pourront ainsi rouvrir leurs portes à compter du 14 avril. À cette date, le port du masque, actuellement obligatoire pour faire ses courses au supermarché, sera étendu aux transports en commun et aux boutiques qui auront rouvert. Tous les autres magasins devraient rouvrir début mai, suivi à partir de la mi-mai des hôtels et des restaurants. Pour ce dernier point, une réévaluation de la situation sera nécessaire fin avril. Cet assouplissement progressif est possible car l'Autriche a pris des mesures suffisamment tôt, selon le chancelier Sébastien Kurz.
Wir haben in Österreich schneller und restriktiver reagiert.
En Autriche, nous avons réagi plus rapidement et de manière plus restrictive que d'autres pays. Cette réaction nous donne aujourd'hui la possibilité de sortir plus rapidement de cette crise, mais seulement si nous continuons tous à respecter les mesures aussi rigoureusement que nous l'avons fait jusqu'à présent.
Ces derniers jours, le taux d'augmentation de contamination a en effet largement ralenti en Autriche, mais cette semaine va être décisive, selon le chancelier, pour savoir si l'assouplissement des restrictions pourra être mis en œuvre comme prévu. Vianney Zorias pour Radio Vatican.
Hier, la chancelière allemande a reconnu que l'Union européenne faisait face à sa plus grande mise à l'épreuve depuis sa fondation. Angela Merkel a estimé que la réponse ne pouvait être que plus d'Europe. Mais elle s'est bien gardée d'aborder la question des coronabonds, à ces obligations que souhaitent créer plusieurs pays, dont la France, l'Italie et l'Espagne, pour soutenir leurs économies. Le pape a créé un fonds d'urgence auprès des œuvres pontificales missionnaires avec une dotation initiale de 750 000 dollars pour aider à la lutte contre le coronavirus. Les organismes d'église qui peuvent et veulent aider sont invités à contribuer à ce fonds par le biais des œuvres pontificales missionnaires de chaque pays, qui représentent le canal officiel de soutien au pape pour plus de 1110 diocèses, en particulier en Asie, en Afrique, en Océanie et dans une partie de la région amazonienne. État d'urgence et plan de relance économique. Après des semaines de tergiversations, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a décidé plusieurs mesures fortes hier pour répondre à la pandémie de coronavirus qui s'étend au Japon. À Tokyo, Philippe Mesmer.
L'état d'urgence concernera dès mercredi à minuit et pour un mois les 7 villes et départements les plus touchés par le Covid-19, notamment Tokyo et Osaka. Cette décision donne un peu plus de pouvoir aux autorités locales pour agir contre la pandémie. Elles peuvent demander aux gens de rester à la maison, aux entreprises et aux écoles de fermer, aux organisateurs d'événements de les annuler. Elles peuvent aussi réquisitionner des terrains ou des bâtiments, voire des stocks médicaux ou alimentaires. L'état d'urgence était demandé depuis plusieurs jours par les élus locaux, comme la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike. Il était également par les experts médicaux. Le rythme des contaminations au Covid-19 s'accélère dans l'archipel qui en dénombrait 4100 mardi matin. Cette hausse rapide fait craindre une saturation du système de santé de qualité, certes, mais mal équipé pour faire face à une pandémie. Les experts attendent 20 000 malades hospitalisés à Tokyo au pic de la pandémie. Or, la capitale ne devrait disposer dans les prochaines semaines que de 4 000 lits. C'est pourquoi une partie du plan de relance économique annoncé en parallèle à l'état d'urgence financera de nouveaux lits. Il a également pour objectif de soutenir les familles et les petites entreprises déjà durement touchées par la crise. À Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
À Hong Kong, dimanche dernier, c'était le 8e dimanche sans messe pour les catholiques. Dans le territoire autonome, tout rassemblement lors des célébrations religieuses est interdit à cause de la pandémie de Covid-19, même si Hong Kong n'a été que très peu touché. Pas facile donc dans ces conditions de vivre pleinement la Semaine Sainte malgré l'engagement des prêtres auprès des fidèles. Des fidèles qui réagissent différemment, comme en témoigne le père Nicolas de Franqueville des missions étrangères de Paris en charge de la province Holy Redeemer Church.
Chacun réagit différemment. Hein. Il y a ceux qui sont très investis dans leur foi, pour qui c'est une vraie souffrance, et qui en même temps prennent un peu les moyens qui sont à disposition par tout ce qui est proposé en Facebook Live, en messe sur YouTube pour aussi continuer à participer derrière leur écran à la messe ou à prier, à venir dans l'église pour prier. Et puis, je pense qu'il y a aussi toute une partie qui peut-être moins fervente, selon qui. Du coup, du fait qu'il n'y ait plus le soutien de la communauté et de la messe du dimanche, on sent bien que leur foi, elle est plus soutenue comme avant. Moi, j'en reçois quand même pas mal qui viennent en confession, qui me disent tout ce problème-là. Ça fait depuis plus de 2 mois qu'on n'a plus la messe en commun, qu'on n'a plus ce soutien. Donc, j'ai l'impression que ma relation à Dieu, elle est plus comme avant. Je deviens paresseux. J'ai l'impression que ma relation à Dieu, petit à petit, elle diminue, quoi.
Le père de Franqueville joint à Hong Kong. Le centre de Kinshasa, la capitale de la République du Congo, confiné jusqu'au 20 avril. Les autorités sanitaires envisagent la désinfection massive de la commune résidentielle de Gombe, où se concentrent les lieux du pouvoir politique et économique. Et puis au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a interdit hier les déplacements vers et au départ des 4 principaux foyers de contamination au niveau coronavirus dans le pays, dont la capitale Nairobi et Mombasa, la deuxième ville du pays. Pour promulgation hier en Guinée de la nouvelle constitution par le président Alpha Condé. Le texte a été approuvé par référendum fin mars dans un contexte difficile, des violences ayant émaillé le vote et la campagne. Dans le même temps, le président guinéen a approuvé un plan de riposte économique au Covid-19 doté de 292 millions d'euros. Les États-Unis, nouvel épicentre de la pandémie. 1150 personnes sont décédées hier du Covid-19. La barre des 10 000 morts a été franchie. Le président Trump a annoncé que cette semaine serait horrible. Du point de vue économique, la situation est-elle très délicate? Le chômage explose. Les faillites d'entreprises se profilent. Donald Trump a prévu un plan de stabilisation de 2 000 milliards de dollars, mais les experts préviennent déjà qu'il ne sera pas suffisant pour enrayer le choc. Beaucoup annoncent ainsi une crise comparable à celle de 1929 à la période de la Grande Dépression qui suivit. Nicole Bacheran, politologue franco-américaine, chercheuse à Sciences Po Paris, nous décrypte les conséquences mondiales d'un éventuel effondrement américain.
Le système de santé américain est soumis à un stress extrême et ce sont toutes ces dysfonctions qui apparaissent aujourd'hui. Évidemment, aux États-Unis, il y a des gens qui ont de très bonnes assurances et qui ont accès à une médecine de très bonne qualité et qui seront très bien soignés. Mais outre le fait que, à l'heure actuelle, je pense particulièrement à New York, les hôpitaux sont débordés, mais il y a aussi évidemment la question des assurances. Les gens qui n'ont pas d'assurance ont toujours eu accès aux salles d'urgence. C'est pas qu'on refuse de soigner les gens, mais aujourd'hui, les salles d'urgence, justement, sont absolument débordées. Et puis, il y a les gens qui sont mal assurés. Puis, il y a aussi la question des chômeurs, puisque l'option choisie par le gouvernement américain, c'est de renforcer les indemnités et les assurances de chômage. Mais par contre, comme en général, les employés sont assurés à travers leur entreprise, et le jour où ils sont au chômage, ils perdent leur assurance. Ils doivent ensuite se trouver un chemin dans un réseau kafkaïen de couverture possible et généralement fort cher. Donc évidemment, cette question de l'assurance santé, elle est aussi au centre des problèmes du système médical américain.
Économiquement, le chômage promet d'être massif, la pauvreté de s'aggraver. Quelle peut être l'ampleur de cet effondrement économique américain ?
Il y a des entreprises qui vont fermer. On attend aussi une crise financière. La bourse continue à plonger. Le chômage qui aux États-Unis était à 3,5%, on s'attend à ce qu'il monte à 30%. Il y a des ressources dans l'économie américaine, mais comment va se faire la transition de cette fermeture progressive qui va devenir générale à la réouverture? Ça, réellement, personne ne le sait.
Personne ne le sait, mais là, Donald Trump a annoncé un colossal plan de relance de l'économie à 2 000 milliards de dollars. Est-ce que l'après-crise sera semblable à celui de la crise financière de 2008? Qu'est-ce qui a changé?
Ce qui a changé par rapport à 2008, c'est déjà l'ampleur du plan de relance de stabilisation. Le plan de relance de Barack Obama en 2011 était à 800 milliards. Là, on en est à 2 000 milliards. Et tout le monde sait déjà que ce ne sera pas suffisant. Est-ce que les banques sont plus solides, plus encadrées qu'en 2008? Ce n'est pas certain. La crise actuelle, elle est d'une bien plus grande ampleur que celle de 2008. Et je crois que ce n'est pas exagéré d'y voir une crise aussi profonde, quoique différente, que celle de 1929.
L'ONU qualifie le moment que nous traversons comme la pire crise mondiale depuis 1945. Outre à leur niveau fédéral, quel rôle peuvent jouer les États-Unis dans cette crise pour le monde?
Ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, c'est que dans cette crise, les États-Unis n'ont aucun rôle de leadership. Ils ne peuvent pas aider d'autres pays, ils ne peuvent pas servir de modèle. Ça prolonge la perte d'influence des États-Unis dans le monde avec Donald Trump avant la crise. Mais le désengagement était réel, le sentiment dans bien des parties du monde qu'au fond tout était permis, que les États-Unis n'interviendraient pas, ne mettraient pas le holà. Et aujourd'hui, certainement, cet affaiblissement est encore plus important.
Sans faire de politique fiction, mais en se projetant un tout petit peu, comment l'Amérique pourrait sortir transformée de cette crise?
Je crois qu'il y a certainement un retour de l'État. Ça, il n'y a aucun doute, puisque Donald Trump lui-même, ultralibéral, quoique protectionniste, il en revient au fond à l'État-providence. On peut imaginer aussi qu'il y ait quand même un approfondissement de la réforme de la santé telle que Barack Obama l'avait mise en place. Il n'avait pas pu aller au bout de ses ambitions. Je crois que l'exigence d'une assurance réelle que l'on puisse payer à portée de chacun, ce sera quelque chose de marquant dans la suite des événements.
Interrogée par Delphine Allaire, Nicole Bacheran, politologue franco-américaine, chercheuse à Sciences Po Paris, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente journée.